BFM Business présente Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business, les experts sans frontières.
Allez, 19h, 18h dans quelques secondes, pardon, soyez les bienvenus sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, on l'a compris, pas de gouvernement aujourd'hui, et comme on nous l'annonce pour avant dimanche, on a la faiblesse de penser que ça sera demain pour demain samedi. Alors, quels sont les derniers bruits de couloir en ce qui concerne Bercy notamment? On va voir ça bien sûr dans un instant. On va beaucoup parler de la France ce soir dans le journal dans quelques instants. Et puis à 18h15 avec nos experts sans frontières, vous savez que c'est le programme qu'on vous propose désormais tous les vendredis. Trois confrères de la presse internationale qui viennent pour nous regarder, pour nous juger, pour nous dire comment on nous regarde, nous Français, dans leur pays. Vu l'actualité, vous l'avez compris, ça s'annonce encore croustillant cette semaine. Voilà le programme, on est ensemble jusqu'à 19h, bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc pas de gouvernement ce soir a priori ça sera peut-être pour demain. Qui sera ministre et surtout qui va arriver notamment du côté de Bercy? Parce que c'est ça qui nous intéresse bien sûr à BFM Business. Anthony Lebeau, c'est à Matignon pour BFM Business.
Michel Barnier a présenté hier soir son projet de gouvernement à Emmanuel Macron et l'un des postes les plus stratégiques, c'est bien sûr celui de Bercy. Après 7 ans passés au ministère de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire devrait être remplacé par un duo de députés du parti présidentiel Renaissance. D'abord, Antoine Armand, 33 ans, inspecteur des Finances, président de la Commission des Affaires Économiques à l'Assemblée Nationale, qui devrait hériter du portefeuille de l'économie et de l'industrie. Ensuite, pour les comptes publics, ce serait Mathieu Lefebvre, lui aussi député, membre de la Commission des Finances à l'Assemblée. Ce duo aurait donc la lourde tâche de présenter, préparer et défendre le budget 2025 à l'Assemblée nationale, sachant que Michel Barnier, le Premier ministre, avait d'ores et déjà décrit une situation budgétaire, je cite, très grave. Quant aux autres portefeuilles ministériels, le travail pourrait revenir à la députée Renaissance et proche d'Emmanuel Macron, Astrid Panosian-Bouvet. Agnès Pannier-Runacher, l'ancienne ministre de la Transition écologique, pourrait retrouver le ministère de l'Écologie. Le commerce extérieur et le tourisme devraient revenir à la sénatrice LR Sophie Primas. L'agriculture devrait revenir à la vice-présidente LR de l'Assemblée nationale, Annie Genevard. Il reste encore quand même de derniers ajustements, dit Matignon, aujourd'hui, avec de possibles changements de nom, mais surtout des discussions pour trouver le bon équilibre entre les différentes formations politiques qui composent cette coalition fragile entre le camp présidentiel et les Républicains.
Anthony Lebeau, donc à Matignon pour BFM Business. Grande question, donc, qui va arriver à Bercy et surtout pour faire quoi? Vous savez qu'il y a des hausses d'impôts pour les entreprises qui sont éventuellement envisagées. Écoutez, cela dit, ce que nous disait ce matin sur BFM Business la chef économiste de la direction du Trésor, Dorothée Rouzet, elle alerte quand même sur le danger que ça pourrait représenter pour elle, ce retour en arrière.
Non, mais je pense qu'il faut faire attention, en fait, effectivement. Bon, il y a un vrai sujet, il y a une situation budgétaire que tout le monde connaît. Et donc, c'est vrai qu'à court terme, il faut être assez pragmatique. Le tabou, pas de hausse d'impôts, il est sans doute en train de sauter parce qu'on ne sait pas tout faire par les dépenses à court terme, même s'il faut, une composante significative de dépenses pour que ce soit... pour montrer que l'effort est partagé par tout le monde. Ensuite, il faut faire attention à ne pas revenir complètement en arrière sur ce qui a marché. Parce qu'on a quelques années de politique de l'offre derrière nous. Se dire, quand on voit les propositions, on remet un ISF, etc. On revient sur des choses qui ont payé quand même en termes d'attractivité.
Dorothée Rouzet, chef économiste de la direction du Trésor, qui était ce matin dans Les Experts sur Nicolas Dose. La France dans tous ses états sur le plan budgétaire. On en parlera bien sûr avec nos experts tout à l'heure à 18h15. Et puis un mot, toujours nos déficits, ça pourrait être pire que prévu cette année. D'après le site de nos confrères des Échos, Bercy envisage désormais que les déficits soient en fait à 6% du produit intérieur brut à la fin de cette année. Si aucune nouvelle mesure n'est prise d'ici là, entre parenthèses, on serait donc, en tout cas, bien au-delà des 5,1% qui avaient été prévus. À l'origine, 18h03, on va partir en Allemagne, où il va y avoir de nouvelles élections régionales très importantes dimanche en ex-RDA. Cette fois, ça se passe dans le Land du Brandebourg. Là aussi, l'extrême droite pourrait faire une percée. Et là aussi, les patrons s'inquiètent. Alexandra Paget.
C'est suffisamment rare pour le noter, les milieux d'affaires allemands, traditionnellement neutres dans le débat politique, se mobilisent contre l'extrême droite. En Saxe, par exemple, la fédération patronale s'emploie à lutter contre l'image d'un Land hostile à l'étranger, repoussoir pour les investisseurs, mais surtout pour la main-d'œuvre immigrée qualifiée, dont les entreprises ne peuvent se passer. Hans Stark, conseiller à l'Institut français des relations internationales.
Le grand business allemand l'a clairement souligné, l'idéologie de l'AFD est absolument toxique pour l'économie allemande. Et on perdrait une main-d'œuvre qui est absolument nécessaire. Par exemple, un tiers des médecins en Turin est d'origine étrangère. Vous imaginez l'impact sur le désert médical en Thuringe?
Il faudrait 400 000 travailleurs qualifiés de plus chaque année pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre en Allemagne, selon l'Agence fédérale pour l'emploi. Environ 2 millions de postes restent vacants, entraînant une perte d'environ 100 milliards d'euros de production.
Voilà, élections qui ont lieu dimanche. On suivra ça, bien sûr. On débriefera lundi matin en direct sur BFM Business. Et puis, aux États-Unis, certains s'en souviennent peut-être, en 1979, avait eu lieu en Pennsylvanie le plus grave accident nucléaire de l'histoire du pays sur le site Three Miles Island. Et bien, on a appris aujourd'hui qu'un grand groupe énergétique américain allait relancer cette unité de production. Bonsoir Benoît Ballet, vous êtes à Washington. Tout ça va servir apparemment à alimenter des centres de données pour Microsoft, Benoît.
Oui, c'est le groupe d'énergie américain Constellation qui l'a annoncé par voie de communiqué. L'accord signé avec Microsoft porte sur 20 ans et permettra de relancer l'unité 1 capable de fournir 835 MW, une unité qui a été arrêtée il y a 5 ans jour pour jour. Alors Constellation qui va investir 1,6 milliard de dollars pour remettre le réacteur en activité d'ici 2028 a vu sa cote boursière augmenter de 16% après cette annonce. C'est la première fois que Microsoft développe une filière d'approvisionnement en énergie nucléaire et d'après les médias américains, le géant informatique va utiliser cette électricité pour ses projets liés à l'intelligence artificielle. Three Mile Island a semé la panique aux États-Unis lorsque le 28 mars 1979, le réacteur de l'unité 2 a partiellement fondu. La commission de réglementation nucléaire américaine a qualifié cet incident de plus grave dans l'histoire de l'exploitation des centrales nucléaires commerciales américaines, bien que les faibles rejets radioactifs n'aient pas eu d'effet détectable sur la santé des travailleurs de la centrale ou de la population.
Merci beaucoup Benoît. Benoît Ballet donc à Washington pour BFM Business. Puis on va rester dans l'énergie avec des mauvaises nouvelles pour le secteur des renouvelables. En France notamment, alors qu'on vient d'inaugurer, vous savez, cette semaine un nouveau parc éolien en mer à Saint-Brieuc. Mauvaise nouvelle parce qu'on a appris que l'américain General Electric allait supprimer 900 postes en Europe dans l'éolien justement, dont 360 en France. Le secteur souffre et est en train de s'adapter. Raphaël Couder.
220 postes supprimés au siège de Nantes et 140 à l'usine de Montoire-de-Bretagne où sont notamment fabriquées des nacelles d'éoliennes. GE Vernova, la branche énergie du groupe américain, rachetée à Alstom en 2015, réduit drastiquement la voilure en France. Une restructuration massive qui met en péril l'avenir de ce secteur énergétique, dénonce la CFE-CGC. Le syndicat rappelle qu'avec les suppressions de postes d'intérimaires plus tôt cette année, ce sont près de 1000 emplois qui auront disparu en un an dans la région. GE Vernova subit en fait de plein fouet les difficultés de la filière éolienne, en particulier l'augmentation du coût des matières premières et le durcissement des conditions de financement. Le groupe reconnaît lui-même qu'il doit donc rationaliser son activité éolienne, la rendre plus rentable et plus efficace. L'industrie tout entière est à présent suspendue à une décision de l'État qui doit en principe dévoiler la semaine prochaine la carte des zones propices à l'éolien en mer. À la clé, un méga appel d'offres de 10 gigawatts qui doit être lancé et qui permettrait de relancer les investissements des énergéticiens.
Raphaël Couder, et puis aux États-Unis, on y retourne. Figurez-vous que Nike a un nouveau patron. Nouveau patron pour nouveau départ parce que les chiffres le montrent clairement. La marque a besoin de se relancer. Nathan Cocampo nous raconte ça.
C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Elliot Hill a construit sa longue carrière, 32 ans chez Nike, de stagiaire à un poste de direction jusqu'à sa retraite en 2020. Elliot Hill est de retour pour revenir aux racines de la marque de sport. Après la période Covid, l'actuel PDG a appliqué une stratégie centrée vers la vente en ligne sur fond d'économie. Automatisation des tâches, réduction des effectifs et refonte des gammes, la stratégie de John Donahoe est vivement critiquée. Et les résultats sont décevants, 2% de baisse du chiffre d'affaires au deuxième trimestre et des perspectives négatives. Nike n'arrive plus à séduire le jeune public. Fini la hype autour des Air Jordan, son best-seller, challengé par exemple par le Suisse On et le Français Oka.
Nathan Cocampo avec nous sur BFM Business, 18h08. Sur ces entrefaits, nous allons sur les marchés. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
On a terminé en forte baisse. J'ai l'impression qu'en fait, on a reperdu quasiment tout ce qu'on avait gagné hier, je me trompe?
Pas exactement. Non, non. Il nous reste quelques points dans la musette, mais quand même, on termine à 7500 points, un repli d'1,5%. Alors, forte pression sur la techno, moins 2,29 pour le Euronext Tech Leader. Sur l'ensemble de la semaine, on reste en territoire positif, hein, plus 0,5% pour le CAC 40. Donc, on gagne un petit peu de terrain. À noter les volumes d'échanges qui étaient extrêmement forts aujourd'hui, extrêmement élevés. On est au-delà des 7 milliards d'euros d'actions négociées sur le CAC 40. C'était une séance à 4 sorcières, 4 types de contrats et d'options qui tombaient à échéance, donc très technique. À noter donc que la techno signe les plus fortes baisses du moment. ST Microelectronics perd 4,9%, 24,87€, c'est la plus forte baisse du CAC 40, mais pas que, hein. Vous voyez, le luxe aussi, LVMH a été attaqué, moins 3,6% à 591,90€. Et puis, à noter aussi une très très mauvaise performance du secteur auto et particulièrement des équipementiers après le profit warning de Mercedes. Forvia perd 8%, 7,96€. OP Mobility, moins 5,92€ à 8,03€. Puis alors Atos, moins 16,7% à 65 centimes d'euros. Donc, nouveau plus bas historique.
Le forêt a une fin, quoi, c'est ça?
Oui, là, vraiment, personne n'en voulait plus, hein, aujourd'hui. Engie signe la plus forte hausse du CAC, plus 1,45€ à 15,80€. On avait des valeurs plutôt défensives, hein, aux avant-postes. Safran, plus 0,57€ à 210,20€. Et la plus forte hausse du SBF 120, elle est pour Lectra, qui gagne 2% à 29,60€. Le CAC, moins 1,51€, 7500 points. L'euro 1 dollar, 11,68€.
On est pile sur les 7500. On regarde ce qui se passe à Wall Street, évidemment. On est à la mi-séance sur le marché américain. Le Dow Jones qui grappille, non, qui perd 0,12%, 41 975. Et puis l'indice Nasdaq qui perd 0,5%, 17 924. Quelque chose à signaler en
Nike.
Sur le marché américain.
Ben, Nike, ouais, bah oui, enfin oui. Le ballon d'air d'oxygène pour Nike, avec le nouveau président. On espère tourner une page. Et le titre, d'ailleurs, signe une belle hausse, plus 6,3% à Wall Street. Puis à noter qu'il
y a besoin de se relancer à ce point-là chez Nike.
Ah oui, ça ne va pas bien du tout, hein, depuis 2-3 ans chez Nike, ouais. Justement. Effet de stock, notamment après le Covid. Hein. Gros effet de stock et exposition à leur réseau commercial, à travers les Footlocker, les JD Sports, etc. Donc, ouais, il y a des interrogations stratégiques chez Nike. Donc, ça fait du bien au titre Nike. Et puis, à noter qu'Adidas, à Francfort, a signé une belle baisse parce que, justement, on a des investisseurs qui se disent Nike est peut-être en train de signer sa recovery avec une nouvelle équipe dirigeante et une nouvelle stratégie.
Le retour en force de Nike. Nouveau record sur l'once d'or, j'ai vu ça, 2006.
Absolument, 2650.
2650.
Nouveau plus haut historique, hein, pour l'once d'or fin, sur fond de décision de la Fed d'abaisser ses taux, de rémunération du dollar. Et puis, toujours dans un contexte où les grandes banques centrales à travers le monde, et notamment la Chine et l'Inde, sont acheteuses nettes d'or.
Et ben voilà, on a fait le tour pour les marchés. Merci Antoine, à lundi.
À lundi.
Plaisir, 18h10, 18h11 en attendant. Ben, nos experts sans frontières arrivent dans un instant. Ils viennent d'Angleterre, de Belgique et d'Italie. Avec eux, on va parler de la France. Ah, vous pensez si elle l'actue autour de la France en ce moment? Ben, on va parler de tout ça en toute décontraction ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business, experts sans frontières.
Allez oui, 18h15, ils sont là, comme tous les vendredis désormais, nos experts sans frontières, parce que vous savez, c'est le rendez-vous qu'on vous propose désormais tous les vendredis. Trois confrères de la presse étrangère qui viennent ici sur notre plateau et à qui on dit de manière un peu crue, jugez-nous, dites-nous comment vous nous regardez, dites-nous comment vous parlez de nous dans vos médias à l'international et ce qu'on vous demande d'écrire et de fouiller pour la presse étrangère. Ils sont là, nos confrères, on est heureux de les accueillir. Aline Percept est avec nous. Aline, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes correspondante dans la RTBF à Paris. À vos côtés, William Robin. Bonsoir William.
Bonsoir.
Bienvenue, correspondant de Bloomberg en France, à Paris également. Et Alberto Toscano qui est avec nous. Alberto,
buonasera.
Bonsoir. Buonasera, journaliste et politologue italien. Alors, toutes les semaines, on se dit, mais on va se régaler. L'actu française nous donne de quoi commenter. Et Dieu sait si aujourd'hui, l'actu nous donne de quoi commenter. Comment est-ce que vous êtes sur cette situation politique? On est à, je ne sais plus, on était 50 jours sans Premier ministre. Je ne sais plus, on est à 70, 80 jours sans gouvernement. Comment est-ce que vous jugez cette situation? Alors, est-ce que la Belgique et l'Italie ont des leçons à nous donner sur ce sujet? La Belgique, la revoyais les chiffres,
pas
je les redonne. On va se faire mal de
541
minutes.
Jours, c'est ça que vous cherchez.
541 jours sans gouvernement, 2010-2011. 2019-2020, 653 jours, c'est
ouais,
ça.
Ouais, c'est ça.
Il n'y a pas quelque chose de semblant du côté de l'Italie, mais j'ai vu qu'en 80 ans, on avait eu un peu plus de 70 gouvernements en Italie, si je ne m'abuse.
10 gouvernements, et quand on est en train de former un gouvernement, effectivement, il arrive qu'il y ait des périodes de plusieurs semaines et même de plus d'un mois de négociations.
Ouais.
Mais il s'agit de négociations.
Ouais.
Et là, la chose bizarre de la France, du point de vue italien, est que deux mois ont été totalement perdus pour sans aucune négociation.
C'est vrai.
Et alors, on s'interroge, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire de dissoudre l'Assemblée tout de suite, de faire des élections tout de suite?
On va pas faire cette histoire-là, Albert. Non, mais comment la Belgique a vécu ces centaines de jours sans gouvernement à chaque fois?
Il y a une histoire de la Belgique qui n'est pas du tout la même que celle de la France, et il y a des cultures politiques qui ne sont pas les mêmes. Moi, ce qui me frappe en ce moment, et là où je pense qu'on peut regarder du côté belge pour avoir quelques leçons, c'est qu'on ne parle que de personnes cette semaine et aujourd'hui en particulier, on ne parle que de noms, que de personnes. Alors qu'en Belgique, il y a vraiment ce côté assez sain du débat politique sur le fond. Là, en ce moment, Bart De Wever, qui est conservateur flamand, essaye de former un gouvernement. Ce sera peut-être pour le mois de novembre, dit-il. Ouais. Et en fait, il y a eu un vrai débat, parce que à part la droite et flamande et wallonne, pour une fois, qui peuvent s'entendre pour faire un gouvernement, il faut quand même intégrer les socialistes flamands qui demandent notamment des impôts sur les plus-values financières. C'est là-dessus que ça a chopé et que la formation du premier gouvernement cet été n'a pas pu se faire.
Ouais.
Mais si vous voulez, on entend dans la presse et dans le débat essentiellement du débat de fond. Et donc, le comparatif, si vous voulez, par rapport à cette semaine, ce qui se passe en France, c'est ça que je retiens.
Ouais.
Et je me dis, au fond, dans ce qu'il y a peut-être à changer à l'avenir, si la France adopte des systèmes peut-être plus proportionnels, ce serait cette idée de contrat de gouvernement et de contrat sur le fond.
Ça, on n'en est pas. Oui, le Robin, alors je disais correspondant de Bloomberg en France, ça fait combien de temps que vous suivez la France pour Bloomberg?
Pour Bloomberg, c'est depuis 2018. Et surtout l'actualité économique et financière.
Ouais. Alors,
mais beaucoup plus de politique ces jours-là.
Donc vous, Bercy, c'est un peu votre seconde maison quelque part.
C'est un peu mon
maison. Vous avez tout vu, vous avez vu passer des ministres. Ouais.
Voilà.
Comment est-ce que vous regardez cette situation française aujourd'hui?
Est-ce
que vous êtes étonné en même temps par le calme relatif qui règne sur les marchés financiers à l'aune de cette situation aujourd'hui?
Oui, c'est un calme relatif. Enfin, je pense qu'on s'est habitué à une certaine inertie de la situation politique en France. Et c'est encore plus difficile à interpréter. On me demande souvent qu'est-ce que ça veut dire maintenant, aujourd'hui, parce que tel a dit certaines choses ou quelqu'un a dit l'inverse. Enfin, pas grand-chose, parce que comme vous avez dit, enfin, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de programme. On ne sait pas ce qui va se passer une fois qu'il y a un gouvernement.
Ouais.
Donc, d'une certaine manière, pour quelqu'un qui est habitué à suivre, c'est-à-dire, on va dire, les chiffres, l'économie, c'est un autre défi d'explication pour nos lecteurs de pourquoi la situation politique est importante et qu'est-ce que ça peut donner par la suite.
Mais ce calme des marchés, il étonne aujourd'hui, au vu de cette situation, ou pas, finalement? On se dit...
Je pense que certains...
Est-ce qu'au cours de ces derniers mois, vous vous êtes dit, ce qui est en train de se passer, à un moment donné, une étincelle va faire vriller les marchés financiers, véritablement?
Je pense
avant-hier, quand les négociations étaient dans la passe, tout le monde s'est dit, ah là, c'est peut-être là le signe déclencheur, finalement, d'une vraie tempête, d'une attaque.
Oui, il n'y a pas eu de vraie tempête hier.
Non.
La vraie tempête, c'était au moment de la dissolution. Et puis, je pense, les marchés financiers, ils ont pricé, ils ont intégré cette inertie qui va aboutir sur pas forcément un grand changement de politique. Cela dit, enfin, on dit souvent que la France ne va jamais traiter ses problèmes de déficit, sauf s'il y a vraiment une crise de marché.
Il y a ce sentiment qu'il faut que les marchés se réveillent pour que la France véritablement...
Je ne sais pas ça.
Est-ce qu'on considère que la France est devenue l'homme malade de l'Europe? Vous savez, c'est l'expression un petit peu porte-valise, finalement. Est-ce qu'on dit que c'est l'homme malade de la zone euro aujourd'hui?
Ça dépend de la maladie, je pense. Parce que souvent, on commence à dire que l'Allemagne, c'est l'homme malade économiques, mais la France en termes de finances publiques.
Je pose la question parce qu'il y a encore 3, 4, 5 ans, on disait que c'était l'Italie. Et on se disait, on va remettre le couvert avec une nouvelle crise de la zone euro, et cette fois ça partira de l'Italie.
La France bénéficie d'une crédibilité internationale. L'Italie n'a pas la même crédibilité. Et la conséquence est quand l'Italie se retrouve en difficulté politique, Alors les marchés financiers réagissent immédiatement.
Ouais.
Et d'ailleurs, quand il y a eu la crise de 2011-2012, ouais, qui a amené un changement politique avec la naissance du gouvernement Monti et avec toutes des réformes économiques et politiques, alors l'Italie s'est retrouvée devant un gros problème de spread, de taux d'intérêt, ouais, et la dette publique italienne, à l'époque, était la plus élevée d'Europe. Aujourd'hui, la dette la plus élevée d'Europe est la française, avec 3 100 milliards d'euros.
Vous êtes à 3 000, vous, en Italie, hein, 3 000 milliards.
2 950, ouais. Oui, non, mais le problème n'est pas là. Ouais. Le problème est que l'Italie, avec 2 950 milliards d'euros de dette, paye 85 milliards d'intérêt par an, et la France, avec 3 100 milliards d'euros de dette, paye une quarantaine de milliards d'euros d'intérêts par an. Donc, la dette italienne, qui est le double, la dette italienne coûte le double, étant moins grande que la dette française.
Donc, la France bénéficie d'une mansuétude des marchés, donc
d'une crédibilité,
pas l'Italie.
D'une crédibilité politique,
alors
institutionnelle.
Alors qu'on est cousins, on est un peu cousins sur ce coup-là. Vous dites 3 000 milliards d'euros d'endettement, nous on est à 3 002. Vous êtes endetté à hauteur de 137% du PIB, nous c'est 112. Bon, bah, nos cas ne sont pas si éloignés que ça, effectivement.
Oui, même par rapport au PIB.
Oui.
C'est-à-dire.
Ah là là. Mais c'est la France, qu'est-ce que vous voulez?
Oui, c'est la France, mais pour vous que ça dure. Le problème est que le jour où la crédibilité française baisse, alors la réaction sur le taux d'intérêt français, j'imagine, sera comme on a vu dans le passé pour l'Italie.
Bon, les marchés sont aussi bienveillants avec la Belgique ou pas spécialement, Adeline, finalement?
Écoutez, je ne vais pas répondre à cette question parce que, pour le coup, je ne suis pas spécialiste et j'aime bien dire quand je ne sais pas. Oui. En revanche, ce qui est clair, c'est que la Belgique a aussi un gros problème de déficit.
Oui.
Donc, elle fait partie des 7 pays qui, comme la France, sous le coup
comme
de
l'Italie
la,
aussi.
Et comme l'Italie,
ben voilà,
de cette surveillance accrue. Donc, finalement, nos pays sont un peu dans la même situation et il va falloir faire des économies. Ouais. Et comment? Et alors, où on va raboter? Voilà, c'est ça l'idée.
Justement, on en est là. C'était le grand débat cette semaine. Faut-il des hausses d'impôts, lever le tabou des hausses d'impôts pour réduire un tant soit peu les déficits et l'endettement? Écoutez ce que disait, tiens, c'était François Villeroy de Galhau cette semaine, le gouverneur de la Banque de France. Qu'il faut un petit peu de hausse d'impôts, mais il faut aussi maîtriser les dépenses, évidemment. Écoutez.
La bonne proportion, probablement, c'est que 3/4 de l'effort soit fait par des économies de dépenses. Mais si on doit faire un effort fiscal, je le dis pour probablement environ 1/4 de l'effort, 1/4 seulement, hein, j'insiste sur les proportions parce que le débat est parti très fortement depuis hier.
Si
sur
j'ai
impôts.
Bien compris, ça veut dire 5 milliards par an.
De l'ordre de 5 milliards,
okay.
Ce sera au futur gouvernement et au Parlement de l'apprécier. Et là, je crois qu'il serait très souhaitable de ne pas toucher aux classes moyennes et aux PME, parce que ça augmenterait leur attentisme ou l'incertitude dont nous parlions tout à l'heure. Par contre, il ne faut pas exclure un effort exceptionnel et raisonnable de certaines grandes entreprises ou de certains gros contribuables. Par exemple, tant qu'on n'est pas revenu sous les 3% de déficit. Ça peut être un effort temporaire.
Voilà, François Villeroy de Galhau, cette semaine sur BFM TV. William, est-ce que du côté des investisseurs, des pays anglo-saxons, des milieux d'affaires anglo-saxons, on se dit qu'il faut vraiment cette fois qu'il y ait un élément déclencheur, qu'il se passe quelque chose en France, véritablement? Qu'est-ce qu'on dit?
En termes d'impôts ou
oui.
En termes de...
Ah, le méla total.
Je pense, enfin, les propos du gouverneur de la Banque de France, là, il a dit qu'il faut faire sauter ce tabou sur les impôts en France. Il n'y a presque pas d'autre option, parce que maintenant, enfin, on peut très bien dire qu'on va réduire les dépenses, mais la situation devient assez urgente en termes de déficit. Donc, pour avoir un impact très vite, ça devient presque inévitable d'augmenter les impôts quelque part. Mais ça pose quelques questions qui sont très problématiques. Enfin,
oui.
Dont une, c'est enfin, c'est difficile à augmenter les impôts que pour certains. Enfin, ça c'est,
et voilà.
Ça, c'est toujours compliqué de dire qui sont ces riches ou qui sont ces grandes entreprises.
De ce que vous entendez dans les milieux d'affaires, est-ce que ça semble encore possible au lieu des Anglo-Saxons de voir la France faire sa révolution véritablement? Est-ce qu'on y croit encore véritablement? Est-ce qu'on croit la France encore capable d'opérer le grand virage?
Je pense que ça c'est l'autre question. Parce que, enfin, les milieux anglo-saxons, on va dire, parmi les investisseurs, ils ont très bien accueilli le projet d'Emmanuel Macron depuis 7 ans. Les investissements étrangers en France sont le preuve de cela.
Ils y croient toujours ?
Bah, ça, c'est la question. Enfin, et je pense, enfin, j'ai l'impression que ça, c'est le problème pour ce gouvernement qui a dit, enfin, certains de Renaissance cette semaine ont dit, c'est hors de question d'augmenter les impôts. Parce qu'en fait, en faisant cela, on fait marche arrière un peu sur le projet Macron qu'il a construit pendant 7 ans.
Ouais. Alberto.
Non, c'est tout à fait vrai. Réduire les impôts, ce n'est plus possible. Augmenter les impôts où ? La France a une dette, a une, un déficit de la finance publique de 157 milliards d'euros par an.
Déficit de l'État.
Dans ces conditions, il est difficile de ne pas augmenter les impôts. Mais de la part de certains partis politiques, l'augmentation des impôts, et je parle par exemple du programme de la gauche, est plus idéologique que pratique. Mmh. Les impôts qui apportent de l'argent à l'État ne sont pas l'ISF. Qu'est-ce qu'a fait Michel Rocard ? Il a créé la CSG et ça a rapporté beaucoup d'argent à l'État. Oui. Mais ça, c'est un impôt injuste parce que tout le monde la paye de la même façon. Donc, les impôts qui apportent sont les impôts injustes.
En Italie, on fait aussi les fonds de tiroir aujourd'hui. Hein,
quand même. Oui, en Italie, le gouvernement Meloni, pour essayer de respecter les engagements européens du pays, doit proposer, il est en train de l'élaborer, un budget très dur à avaler du point de vue de l'opinion publique.
Et j'ai vu que, alors vous allez carrément commencer à vendre les bijoux de famille, j'ai vu ça, vous allez vendre des parts dans la banque Monte dei Paschi. Vous allez vendre des parts dans le géant Eni, le Total Fina, le Total
d'autres
italien.
Parts, parce que ça a été déjà un parti privatisé.
Et des parts dans la Poste. Et
des parts dans la Poste, oui.
Vous imaginez ça en France?
Je l'imagine mal. Mais quand même, je n'imaginais pas poste, non plus que la France aurait privatisé Renault. Hein. À l'époque, c'était la régie Renault. Et dans les années 90, la seule idée de privatiser Renault était blasphématoire. Et la France l'a fait. Donc, s'il y a la volonté politique, on privatise.
Adeline, chez vous en Belgique.
Non, mais sur les
hausses d'impôts. Comment est-ce qu'on regarde nos turpitudes financières, budgétaires?
Non, mais sur les hausses d'impôts, vous savez ce que ça me rappelle? Moi, j'ai été correspondante en Espagne au moment de la crise financière. Ouais. J'ai beaucoup suivi aussi ce qui s'était passé au Portugal à l'époque.
Terrible. Puis on avait une consoeur de la presse portugaise la semaine dernière.
En Grèce. Et ce qui s'est passé quand même globalement, c'est qu'on a augmenté la TVA partout. Et je me souviens très bien d'avoir fait des reportages au Portugal à ce moment-là. En Espagne aussi. L'Espagne l'a quand même mieux vécu que le Portugal. Donc, je pense que c'est ce type de choc qui va attendre les Français. Il faut qu'ils s'y attendent au niveau des impôts, je veux dire. Parce que là, on voit bien que le jeu politique, c'est quand même de se renvoyer la balle et de dire « Oui, alors on va aller toucher les plus riches. Ah mais non, mais les entreprises. Ah mais non, mais surtout ne touchez pas aux classes moyennes. » En réalité, tout le monde va devoir mettre la main à la poche par une recette ou une autre.
Pour vous, il y a cette certitude absolue. Ouais, évidemment qu'on va y venir petit à petit. Bon, voilà. Est-ce que je vous fais écouter Pierre Moscovici? Je ne sais pas si on a le temps avant la pub d'écouter Pierre Moscovici. Ouais, on va l'écouter, si, si. Parce que, alors, vous avez remarqué que dans le casting, pour l'instant, qui circule, il n'y a pas de nom pour le ministère des Finances. Il n'y a pas de ministre des Finances, pour l'instant. Il n'y a pas de nom qui circule. Et écoutez, ce matin, ce sont nos confrères de France Inter qui ont testé éventuellement Pierre Moscovici sur le sujet, en lui demandant s'il referait aujourd'hui la taxe de 75%, vous savez, à la grande époque de François Hollande. Écoutez, il a un petit peu botté en touche quand même, Pierre Moscovici.
Je suis arrivé, j'étais ministre des Finances de François Hollande, on avait proposé cette taxe de 75%. Bon, moi personnellement je n'y croyais pas beaucoup, mais je me souviens de la réaction effectivement de certains milliardaires, que je ne vais pas nommer, dans des échanges que j'ai pu avoir avec eux, disant bon à ce moment-là on fait partir tous nos créatifs.
C'était Cuba sans le soleil. Vous souvenez l'expression des milliardaires?
Oui, je me souviens très bien, je ne suis pas amnésique. Donc je pense qu'il faut être effectivement assez prudent avec ça. En même temps c'est un choix politique, très politique, et je ne fais plus de politique.
Vous en faites? Et vous en faites tout le temps de la politique?
Non, je m'occupe de politique publique au pluriel.
Oui,
les Américains ont une expression pour ça, vous savez, il y a les politics, c'est le combat politique, j'en fais plus. Parfois ça me manque, mais j'en fais plus. Et puis il y a les policies, les politiques publiques, alors ça j'en fais à fond.
Voilà, sous-entendu, il veut pas y aller, personne veut y aller. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de candidat, apparemment, ça se bouscule pas pour devenir ministre des Finances en France, quoi. Assez révélateur de quelque chose, ça, quand même.
Peut-être il y a des candidats, mais ils ne sont pas spécialement qualifiés, et voilà.
Je crois que ça dit beaucoup de choses sur l'épaisseur, la consistance du personnel politique en France, tout simplement. Enfin, je ne sais pas comment vous
voyez. Justement, je pense que c'est la distinction qui fait Pierre Moscovici entre policies et politics. En fait, il faut quelqu'un qui peut faire du policisme et qui est hors des questions, qui est loin des questions politiques.
On n'est pas outillé pour ça en France. Oui, c'est ça le problème, je pense. Oui,
non,
pardon,
mais le moment politique n'est pas favorable. Mais est-ce que vous, en tant que politique, vous iriez? Mais évidemment pas. Enfin, moi, je n'irai pas au ministère des Finances. J'accepterai ce que vous voulez, mais pas le ministère des Finances.
Parce que ce gouvernement est faible.
Oui.
Qui va... Est-ce que le gouverneur de la Banque de France, pour dire un nom, est prêt à quitter sa place
aussi, voilà,
pour un gouvernement qui peut durer 3 mois ou 4 mois.
Même pas, parce que finalement, quand Marine Le Pen aura décidé, ce sera terminé.
Si le gouvernement était fort, on trouverait des candidats. Ouais. Mais avec un gouvernement si fragile, si faible, évidemment...
Être ministre peut-être quelques semaines, se prendre de plein fouet les filles, le RN à l'Assemblée, et tout ça pour devenir monsieur ou madame mauvaise nouvelle, non, effectivement, vous n'avez pas vraiment de candidat.
Si vous ne pouvez pas, en tant que ministre des Finances, là, maintenant, faire un plan.
Oui.
Si vous n'êtes pas en capacité d'être dans le long terme, je pense que c'est très compliqué et que personne ne veut s'y risquer, et on le comprend.
Et les marchés financiers restent zen au milieu de tout ça. C'est ça, finalement, notre grande performance. 18h32, on marque une pause. On revient dans un instant avec nos experts sans frontières. On est ensemble jusqu'à 19h sur BFM. À tout de suite.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business, les experts sans frontières.
Oui, sont là nos experts sans frontières, 18h36, vous savez que c'est le rendez-vous qu'on vous propose désormais tous les vendredis, hein, 18h15 à 19h sur BFM Business. Les experts sans frontières, trois confrères de la presse internationale qui viennent sur notre plateau et on leur dit « jugez-nous ». Dites-nous comment vous nous voyez, dites-nous ce qu'on vous demande de raconter peut-être sur nous dans vos pays respectifs, dans vos rédactions évidemment. C'est un avis qui nous intéresse fortement. On était avec Adeline Percept, correspondante de la RTBF à Paris, William Robin, correspondant de Bloomberg en France, et Alberto Toscano, journaliste et politologue italien. Je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Adeline, qui nous promettait des lendemains difficiles, à l'instar de ce que vous aviez vu en Espagne, il y a de ça une dizaine d'années, au moment de la crise de la zone euro. William, est-ce que pour vous, il y a l'idée aussi que... Alors vous me la pardonnerez, elle est facile, c'est du sang et des larmes qui nous attendent, du sang, de la sueur et des larmes, pour reprendre une expression churchillienne finalement.
Là, pour l'instant, on a du mal à imaginer comment on l'évitait. Son miracle économique... C'est difficile à imaginer comment on peut éviter des hausses d'impôts ou enfin des baisses de dépenses assez drastiques.
Sauf à négocier du temps avec Bruxelles, toujours plus de temps.
Je pense que il ne reste plus beaucoup de temps. Je ne sais pas, à Bruxelles, si on chronomètre le temps qui reste, c'est pas énorme.
Vous pensez qu'à Bruxelles, on est prêt à nous donner un petit peu de temps, à nous Français, nous qui avons bénéficié de tant de mansuétude d'ici
Je pense que le problème pour Bruxelles, c'est qu'en fait, ils ont fait tous ces nouveaux règles.
Oui, une vraie forme de pacte de stabilité.
Test, c'est la France.
Donc, le test, c'est la France pour vous.
Oui, pour que ça soit crédible, il faut que la France adhère à ces règles. Sinon, enfin, tout ce système qu'on a passé beaucoup de temps à créer, enfin, c'est
intéressant,
ça marche pas.
C'est intéressant parce que vous avez l'impression que la France doit faire l'exemple.
Oui, mais la France est l'exemple. Parce que si la France ne respecte pas, les Italiens, les Espagnols, les autres diront « Mais regardez la France !» La France est tellement importante que si elle ne respecte pas une règle, les autres s'engouffrent dans cette situation et profitent de cette situation. Donc, si on veut...
Mais vous aussi, vous êtes en procédure de déficit excessif, si je ne m'abuse, comme la Belgique.
La Belgique a déjà demandé un délai, hein, comme la France, pour présenter sa copie à la Commission.
Oui. Hein, et vous aussi, apparemment, vous avez demandé un délai à Rome, 6 ou 7 ans, pour ramener votre dette à des niveaux. 6 ou 7 ans. Alors, pourquoi on n'aurait pas ça, nous?
Mais vous avez ce rôle fondamental, politique, exemplaire en Europe, comme quoi si vous ne respectez pas les règles, les autres en profiteront pour ne pas les respecter à leur tour. Et la situation de la France est vraiment fondamentale pour l'Europe. Et probablement la France ne pourra pas respecter ces règles, parce que on voit...
Pas 2-3 ans.
Pas 2-3 ans. Bon. Et donc la situation sera d'une polémique supplémentaire en Europe entre pays qui veulent absolument la rigueur, le pays de l'Europe du Nord, et le pays de l'Europe du Sud qui vont se mettre à l'abri, à l'ombre de la position française.
Ouais. Mais Votre phrase m'intéresse vraiment. Vous dites, en fait, toute cette réforme du pacte de stabilité, cette nouvelle règle, vous dites, ça a été fait pour que la France donne l'exemple, en fait. C'est ça qui m'intéresse.
À l'époque, si je me souviens bien, enfin, les nouvelles règles correspondaient plus ou moins aux trajectoires des finances publiques françaises. Donc, c'est peut-être une coïncidence.
C'est peut-être
pas.
Une coïncidence. Mais enfin, il y a un message sibyllin, c'est ça que vous voulez
dire. Mais maintenant,
ce
n'est plus le cas.
Ouais.
Pour revenir, le gouverneur de la Banque de France a dit cette semaine qu'en fait, on peut toujours être dans les règles sans. Enfin, on peut peut-être revenir à 3% dans 5 ans, mais tout en restant dans les règles. Mais ça implique quand même 20 milliards d'économies par an, ce qui est quand même assez important pour la France.
Allez, 2029, on dit qu'on est à 3% en 2029 au lieu de 2027, ce qui éviterait de casser la croissance par les mêmes occasions. C'est raisonnable. Après tout, l'Italie a obtenu ce délai. Pourquoi est-ce qu'on ne l'aurait pas, nous, finalement ?
C'est raisonnable, mais il y a un prix. Et même pour le 3% en 2027 et même 2029 a un prix, parce qu'au rythme actuel, c'est difficile de le respecter.
Alors, le prix à payer, justement, puisque vous parlez de prix, ça serait peut-être notamment de tenir cette réforme des retraites qui est menacée d'abrogation. Vous savez que le Rassemblement National va déposer au 30 octobre dans ce qu'on appelle une niche fiscale, une proposition pour abroger cette réforme des retraites. Écoutez ce que nous disait ce matin le député socialiste Jérôme Guedj, député de l'Essonne, qui dit « Oui, nous aussi à gauche, on va tenter de faire capoter cette réforme des retraites. » Mais d'une autre façon, écoutez ce qu'il disait, c'est intéressant.
Cette réforme a été adoptée par un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif. Le PLFSS, comme on dit dans notre jargon, arrive à l'Assemblée dès le mois d'octobre. Et donc, c'est à ce moment-là que nous mènerons la bataille. Et pourquoi je considère que la niche parlementaire...
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous vous battrez contre ce projet de loi, ce texte de loi,
on proposera des amendements pour revenir sur la réforme des retraites, pour le faire efficacement. Parce que je vais vous dire pourquoi.
Oui.
Le RN veut faire un coup. Ça a pas été, ils n'ont pas été les principaux opposants à cette réforme des retraites. On les a pas vus dans la rue, on les a pas vus combatifs à l'Assemblée nationale. Ils ont oscillé sur des positions sur la question de la réforme des retraites. Et là, ils se disent, tiens, on peut faire un coup. Ils déposent une dans leur niche parlementaire. Mais il faut savoir, dans le jeu parlementaire, que même si elle était votée dans cette niche parlementaire, après, il faut que ce soit repris au Sénat dans une autre niche parlementaire. Alors que le PLFSS, si on est capable de dégager une majorité, c'est avant le 31 décembre qu'il peut y avoir une réforme des retraites. Donc moi, c'est à ce moment-là que je mènerai la bataille.
Bon, c'est pas gagné, mais on sent qu'il y a encore beaucoup de monde devant de la scène pour abroger cette réforme. C'est combien la retraite en Belgique, chez vous?
En Belgique, alors, c'est 65 ans pour l'instant.
Ouais.
Ça va évoluer dans les prochaines années. 66 ans en 2025. 67 ans en 2030. Moi, j'ai beaucoup parlé des manifestations pour la RTBF. Les Wallons, en tout cas, ont très bien compris la colère des Français. Mais en Belgique, ça a fini par être accepté parce que, justement, le système politique veut qu'il y ait une proportionnelle et qu'on accepte, à un moment donné, dans les urnes, ceux qui passent.
En Italie, c'est quel âge aujourd'hui ?
C'est 67.
Mais
la réforme des retraites, c'est le résultat de deux chiffres.
Ouais. Hein,
et la retraite de vieillesse et l'autre. Mais il faut tenir compte des années travaillées. Donc en Italie, on travaille sur la chiffre, l'Italie est orientée sur le chiffre de 103 comme addition entre l'âge de la personne et les années de contribution. Donc une personne peut théoriquement prendre sa retraite à 60 ans si elle a 43 ans de contribution. Donc ça, c'est cet ensemble. Mais si on n'a pas assez de contribution, l'âge de la retraite vieillesse est 67 ans en Italie.
Et il y a eu cette petite phrase cette semaine ou il y a quelques jours de votre ministre de la fonction publique qui a proposé, alors il dit c'est sur la base du volontariat, 70 ans pour les fonctionnaires qui le souhaitent. Sur la base du volontariat, cette mesure s'accompagnant d'une prime de longévité versée à la fin des années de cotisation, ce qui fait hurler les syndicats. Enfin, vous avez ouvert cette brèche quand même à 70 ans dans la fonction publique.
Une brèche qui est contre les intérêts de l'État, parce que les fonctionnaires publics qui demandent de continuer à travailler jusqu'à 70 ans sont ceux qui ont un gros salaire. Donc, à la fin, l'État paye beaucoup plus, parce qu'il paye un gros salaire et il ne remplace pas celui qui part à la retraite par un jeune. Donc, c'est une chose malsaine. Et cette déclaration veut aider, faire la part belle à certains salariés de l'État, certains fonctionnaires, avec des hauts salaires, des salaires élevés. Mais, c'est vraiment pas le chemin pour résoudre le problème.
Mais comment est-ce que vous nous regardez en France, vous qui avez des âges de départ à la retraite plus élevés, enfin franchement, quoi. Là, on est dans un psychodrame pour maintenir les 64 ans. Enfin voilà, on en pense ce qu'on veut, mais
en Belgique, il y a quand même, on a quand même un pays très divisé sur ce type de questions. Vous avez quand même si là pour ces élections, pour le coup, toute la Belgique ensemble est plutôt centre droit. Mais c'est très rare dans l'histoire politique récente. Vous avez plutôt un côté flamand qui est libéral, un peu à l'anglo-saxonne, un peu à la hollandaise finalement, donc qui regarde ça avec des gros yeux en se disant mais quel fainéant ces Français. Et vous avez le côté wallon qui évidemment est essentiellement francophone et qui du coup a des clés de compréhension et une proximité assez grande avec ce que peuvent ressentir les Français. La Belgique a dû quand même agir ces dernières années sur le montant des pensions.
Oui.
Ça a été un gros thème.
Ce qui est un tabou en France encore, hein, on dit.
Ouais.
On
a, mais ça pension. A été un énorme thème en Belgique et aujourd'hui le débat est pacifié, mais il est un peu derrière nous.
Et les Italiens, ils nous regardent comment avec nos 64 ans, là, nous dépêtrer depuis un ou deux, Alberto,
un peu de jalousie.
Oui, forcément. Oui.
Beaucoup d'intérêt. Mais résigné, parce que ça, en Italie, c'est les 64 ans français sont au-delà de ce que les Italiens peuvent espérer. Et ce qui existait avant en France est encore presque de la science-fiction pour les Italiens. Les Italiens sont habitués, malheureusement pour eux, à faire des sacrifices sur le terrain des retraites.
Cette réforme des retraites, vous me disiez, la France passe un test, voilà, le test des nouveaux... les règles budgétaires en Europe. J'ai l'impression que ça, c'est la mesure phare du test. C'est le test dans le test, en fait, la réforme des retraites.
C'est le test dans le test. Et je pense, enfin, le souci, c'est qu'il y a...
Tout le monde regarde ça à l'international. Oui, est-ce qu'on va tenir là-dessus, quoi ?
Le problème, c'est qu'il y a très peu de marge. Enfin, on pourrait très bien imaginer de changer un peu à la marge la réforme des retraites pour faire plus de justice, mais je pense que des modifications minimales, à minima, comme ça... ne serait pas suffisant politiquement. Le problème, c'est que pour faire, il n'y a pas de marge financière pour faire quelque chose de plus important. Vous demandiez ce qu'on pense de 64 ans à l'étranger.
Enfin, oui.
Le problème, c'est, ça paraît extrêmement bas, mais c'est parce que, en fait, le système français, c'est difficile à comprendre pour le monde
anglo-saxon. C'est difficile à comprendre.
Parce que c'est tellement, il y a une grande partie, c'est gigantesque, qui passe par les finances publiques. Donc, ça devient.
Ah, ce qui n'est pas la même chose dans le monde anglo-saxon, évidemment.
Oui, voilà, donc ça devient un choix très politique, en fait, de ce qu'on fait avec le système de retraite. C'est-à-dire, on peut très bien dire, on veut partir à la retraite à, je sais pas, à 62 ans.
Oui, sur l'instant de la capitalisation,
Non, mais à ce moment-là, on choisit d'investir moins ailleurs.
Et voilà.
Enfin, c'est ça le problème. Tout est mélangé dans les finances publiques.
Je pose cette question parce qu'il y a un tel degré de focalisation autour de cette réforme. On en fait le test dans le test qu'on se dit, si jamais elle devait abroger cette réforme, pardon, je cherche le chat noir à chaque fois, le signe déclencheur sur les marchés financiers, est-ce que quelque chose pourrait se passer? Voilà. Est-ce que ça pourrait être un élément déclencheur aux yeux des investisseurs internationaux qui nous ont tant regardé sur ce dossier des retraites, pour vous, finalement?
Est-ce que ça pourrait être déclencheur? Enfin, c'est souvent quelque chose que les investisseurs ne comprennent pas dans tous les détails. Enfin, donc, si c'est quelque chose qui arrive subitement comme ça, je pense, comme tout changement abrupt, ça peut avoir un impact sur les marchés financiers.
C'est devenu le totem. Donc, si on touche au totem, alors on donne la sensation qu'il y a moins de rigueur dans toute la finance publique.
Oui. Et les attaques des marchés, on disait, c'est comme les caries, ça prévient pas. Donc ça peut venir d'une abrogation de la réforme.
Il n'y a plus qu'à espérer qu'on soit comme en Suisse. Vous savez ce qui s'est passé?
Allez-y.
Il n'y a pas très longtemps en Suisse, on s'est aperçu qu'on s'était trompé sur les calculs et que on pensait qu'on était un peu juste au niveau des caisses de retraite. Finalement, on est excédentaire de 10 milliards.
Il n'y a qu'en Suisse.
Il n'y a qu'en Suisse
qu'on voit tout pareil. Oui, je suis d'accord avec vous. Bien, je voudrais qu'on dise un mot quand même parce que ça a été aussi un des événements marquants du début de semaine. C'était lundi matin, c'est l'annonce surprise de Thierry Breton qui a donc annoncé qu'il ne ferait pas partie de la prochaine commission. Il dit qu'il a été saqué en quelque sorte par Ursula von der Leyen qui a demandé à la France de retirer son nom de la liste des candidats français, qu'il ne soit pas le candidat de la France. Beaucoup d'émoi en France autour de ça. Écoutez Dominique Carlac, la vice-présidente du MEDEF, qui rendait hommage dès mardi matin sur BFM Business à l'œuvre de Thierry Breton. Écoutez.
Le bilan de Thierry Breton est quand même assez colossal. On parle de bulldozer en parlant de sa personnalité. Il a quand même été sur les dossiers majeurs de la dernière mandature. Votre journaliste l'a rappelé, c'est quand même lui qu'Ursula von der Leyen avait mandaté pour la fabrication des vaccins. C'est lui qui a augmenté les capacités, enfin qui a fait en sorte d'augmenter les capacités pour la défense. C'est lui qui a s'est attaqué au colosse de l'informatique et des plateformes. Et enfin, c'est lui qui, pour faire face à l'Asie, s'est attaqué aux semi-conducteurs. Donc, il va laisser un héritage qui fait qu'on pourra difficilement se passer quelque part de la souveraineté et la sécurité économique et industrielle à la française.
Voilà, Thierry Breton, le seul commissaire français éjecté du jour au lendemain comme ça par Ursula von der Leyen. Qu'est-ce que ça dit de l'influence française dans l'Europe finalement?
Moi, je crois qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cette histoire sur le plan intérieur comme sur le plan extérieur. Le premier message que j'ai, c'est que Ursula von der Leyen, il faut savoir d'où elle parle. C'est un pilier de la CDU. Et qu'est-ce que c'est que la CDU en Allemagne? C'est, je veux dire, un parti qui est fondé sur les industriels, sur les grosses PME allemandes. Mais pour qui roule-t-elle? Évidemment, pour les intérêts de ces gens-là. Elle roule pour les intérêts de ses électeurs. Donc,
et pas lui.
Et pas lui. Et pas Breton, bien évidemment. Donc, il ne faut pas avoir de naïveté sur les Allemands. Mais non, mais pour le coup, j'ai aussi été correspondante en Allemagne. Voilà, je me suis baladée pas mal en Europe. Et s'il y a bien une chose que j'ai retenue de mes 3 ans en Allemagne, c'est qu'il ne faut avoir aucune naïveté sur le couple franco-allemand. Et surtout quand on parle de la CDU, mais on le voit aussi sur le plan politique avec ce qu'est en train de faire Olaf Scholz. Hein. Donc, ça, c'est la première chose. Et je pense que Thierry Breton, du coup, était un petit peu un caillou dans la chaussure, quand même. Et sur le plan politique également, ce qu'elle veut, Ursula von der Leyen, c'est des gens qui sont ce qu'on dit des yes-men. Et il n'est pas un yes-man pour Madame von der Leyen.
Il a peut-être payé aussi, Alberto, la perte d'influence, la perte de vista, comme on dit, d'Emmanuel Macron, notamment depuis 2 mois, depuis les législatives, depuis
la dissolution. Oui, peut-être, mais je crois que vraiment l'explication est que le poids de Thierry Breton était excessif, était considéré excessif par Ursula von der Leyen.
Et par rapport au poids de la France aujourd'hui au sein de l'Europe.
Son poids personnel, Thierry Breton a eu l'expérience même à l'intérieur du gouvernement français à l'époque de Jacques Chirac. C'est-à-dire, ce n'est pas... C'est une personne qui il y a un clivage autour de... Ou est avec lui, ou est polémique contre lui. Ce n'est pas d'expérience de ce qu'on a vu. Hein. Peut-être que je me trompe. L'expérience qu'on a vue, même en France, est que c'est une personnalité très forte qui veut réaliser ce qu'elle décide. Et dans la Commission européenne, il y a un patron. Et ce patron est le président de la Commission. Et dont, surtout, Ursula von der Leyen, pour son nouveau mandat, voulait qu'il y ait... tu dis yes men, Adeline, je ne sais pas si c'est une question de yes men, mais quand même, il y a
Il n'y a pas une cohabitation. Non, c'est une pratique très verticale, on l'a dit, pas une pratique qui dépasse.
Exactement. Je crois qu'elle a raison.
Et tous les poids lourds, d'ailleurs, on l'a dit, tous les poids lourds de l'ancienne Commission ont disparu. Enfin, il n'y a plus une tête qui dépasse aujourd'hui, quasiment.
Exactement.
William, comment est-ce que vous regardez cette séquence? Perte d'influence de la France ou pas, finalement?
Je ne sais pas si c'est une perte d'influence... si j'ai bien compris, enfin, le problème, c'était un problème personnel qui était évoqué entre Thierry Breton et von der Leyen.
Ouais, mais est-ce que c'est pas plus large?
Donc, en fait, dans ce cas, la France n'aurait pas pu avoir un commissaire très puissant. C'est ça le souci, peut-être.
C'est la France.
Et du coup, enfin, j'ai l'impression que en proposant Stéphane Séjourné, peut-être Macron a pu avoir un portefeuille plus important pour la France.
Mais c'était ça. Elle a dit retirez Breton et je vous donne un portefeuille aux compétences plus élargies. C'est
une perte d'influence, surtout d'Emmanuel Macron qui s'est autodissous. Avec déjà l'échec aux européennes de son camp, il a perdu du poids politique. Il s'est un peu autodissous et évidemment qu'il a été. Il avait une position trop faible et qu'elle a profité, parce qu'elle est une excellente politique, elle a profité de ça pour imposer son choix. C'est une perte d'influence de Macron qui impacte la France. Voilà, c'est ça.
N'oublions pas que Thierry Breton n'était pas le premier choix d'Emmanuel Macron. Hein. C'était Sylvie Goulard.
C'est Sylvie Goulard à l'époque. Déjà, on avait constaté une mauvaise pub.
Mais là, il l'a soutenu.
C'était quelque part remplaçant de Sylvie Goulard après qu'elle a été retoquée. D'ailleurs, à chaque commission, il y a quelqu'un qui est retoqué. On va voir si quelqu'un des candidats commissaires actuels sera retoqué par le Parlement européen.
Donc, confirmation, vous ne vous faites aucune illusion sur le couple franco-allemand. Vous non plus, vous ne croyez pas au couple franco-allemand.
Je crois à l'Europe.
Alberto. Vous croyez à l'Europe, voilà. Et on se fait encore des illusions dans les milieux anglo-saxons sur ce que la viabilité du couple franco-allemand, ou alors est-ce que c'est...
Sait très bien que c'est un couple qui est nécessaire pour l'Europe, mais ce n'est pas forcément suffisant.
Qui n'est pas suffisant, voilà. Donc il faut l'élargir, ce couple franco-allemand, à l'Italie, à l'Espagne.
Une gouvernance européenne plus efficace que l'actuelle, ça c'est sûr. Parce que les défis actuels sont tellement énormes que s'il y a de la confusion dans la gouvernance européenne, on la payera très cher, comme on dit dans le rapport Draghi. Très intéressant.
Est-ce qu'il y a toujours le sentiment que si les taux d'intérêt français ne s'emballent pas de manière générale, c'est parce que la France fait partie d'un tout, d'une zone euro ? Et que la signature de la zone euro, c'est la signature de la France, c'est aussi la signature de l'Allemagne, finalement.
On dit souvent que la France...
Le parapluie, toujours, l'éternel parapluie.
La France est too big to fail, comme on dit en anglais. Enfin, ça ne peut pas faire faillite, parce que sinon l'Europe n'existe plus.
Comme l'Italie. Donc... Je ne peux pas faire faillite, l'Italie non plus, c'est pareil.
Disons que l'Italie ne devrait pas faire faillite, mais elle n'est pas grande comme la France.
Et la Belgique non plus, too big to fail, la Belgique, c'est pareil. Quoi.
La Belgique est un pays fondateur, elle est petite, c'est un petit pays, mais politiquement parlant, c'est un pays qui compte beaucoup en Europe. Et c'est aussi au fond une sorte de synthèse de ce qu'est l'Europe. C'est un pays totalement unique pour ça.
Mais l'ordre de nos comptes publics n'a jamais été important comme à ce moment. Ça vaut pour la France, ça vaut pour l'Italie et ça vaut même pour l'Allemagne.
Message passé à Michel Barnier qui est en train, on imagine, de faire les derniers ajustements pour nous présenter son gouvernement, peut-être demain ou alors dimanche. On nous a dit avant dimanche, donc on va penser que ça sera demain samedi. Merci à tous les trois d'être venus ce soir sur notre plateau. Adeline Percept, correspondante de la RTBF à Paris, William Robin, correspondant de Bloomberg en France, et Alberto Toscano, journaliste et politologue italien. Merci beaucoup, à très vite, avec plaisir, tous les trois sur BFM Business, 18h56. Je vous donne les grands titres de l'info dans un instant, 19h, et puis Fred Mazzella qui arrive juste derrière, jusqu'à 20h. À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.